quoi tu penses?
Bizarre.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de votre séquence midi. Au menu du jour, votre rendez-vous cinéma du mercredi. On vous fera part aussi d'idées sorties et de découvertes musicales. Mais tout de suite, je vous propose de parler alphabétisation et surtout apprentissage du français en compagnie de Nicolas Chassin, qui est directeur de l'association Le Toit du Monde. Bonjour.
Bonjour Anaïs.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez envoyé un petit communiqué de presse aux médias locaux à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation qui avait lieu donc le 8 septembre dernier, une journée proclamée par l'ONU pour l'éducation, la science et la culture. Et donc ça s'est décidé, c'était en 1965 que cette journée a vu le jour. Et vous avez décidé de prendre ce prétexte un peu pour alerter sur des difficultés que vous rencontrez à l'association et en général à Poitiers sur la question de l'apprentissage du français. Peut-être rappeler ce que fait le Toit du Monde dans ce domaine ?
Alors, le Toit du Monde est signataire et fait partie des structures qui ont impulsé ce communiqué de presse.
Oui, parce que c'est tout un collectif,
voilà,
en fait.
Voilà, c'est un ensemble de structures.
On peut commencer par ça, ce collectif.
Donc, ce sont des structures qui interviennent soit dans la formation, l'apprentissage du français. On retrouve aussi des structures qui interviennent dans l'insertion professionnelle et dans l'accompagnement social. C'est-à-dire que ce communiqué de presse naît d'un constat de difficultés des personnes que l'on accompagne dans ces différents domaines, et des difficultés de ces personnes à pouvoir accéder à des formations concernant l'apprentissage du français, qui est un élément essentiel pour pouvoir vivre sa pleine citoyenneté dans notre société.
Et donc vous affirmiez un chiffre, donc 10% de la population française est en difficulté avec l'écrit. Et ça, c'est une difficulté que vous rencontrez dans vos associations.
Alors, on affirme ce chiffre,
ce sont
des données de l'INSEE. Donc
Vous les mettez en avant en tout cas.
Voilà, on les met en avant puisque c'est un problème qui a une connotation locale, puisque les structures qui sont à l'origine de ce communiqué de presse sont des associations locales ou régionales, pour l'une d'entre elles, Coraplis. Mais c'est une difficulté qu'on rencontre au niveau national. Donc, qui tiennent au fait, donc ça représente quand même 7 millions de personnes hein, sur notre territoire, qui tiennent au fait que des personnes, soit du fait que le français ne soit pas leur langue maternelle, soit du fait de parcours scolaires plus ou moins difficiles et chaotiques, sont en difficulté avec l'écrit ou avec les savoirs de base.
Et pourquoi aujourd'hui alerter particulièrement ? Vous ressentez une croissance de ces difficultés ?
Alors moi, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour déterminer s'il y a une augmentation en pourcentage de personnes en difficulté sur ces domaines-là. Ce qu'on constate, par contre, c'est que d'être en difficulté à l'écrit en français marginalise de plus en plus, puisque c'est un outil qui était déjà extrêmement important et indispensable, mais qui devient essentiel et vital même pour effectuer toutes sortes de démarches. C'est lié à une complexité croissante de notre société, à la dématérialisation d'un certain nombre de démarches administratives, hein, c'est-à-dire que...
Tout se fait en ligne.
Tout se fait en ligne, même suivre la scolarité de mes enfants implique que je puisse aller sur le site, que je puisse quand même déchiffrer et comprendre. Alors on a là pour le coup deux niveaux de difficulté, hein, un niveau de difficulté lié à la maîtrise de la lecture-écriture, et puis un niveau de difficulté qui est lié aussi à l'usage des outils numériques.
Et qui se cumule, du coup.
Qui se cumule, et puis utiliser son smartphone pour Facebook, WhatsApp ou autre chose n'est pas exactement la même chose que de devoir l'utiliser dans un cadre où on est sur des démarches administratives. Et donc, on redouble les difficultés d'accès.
Et ça, ces obstacles-là, le Toit du Monde qui donc accueille des personnes étrangères, c'est flagrant parce que toutes les démarches maintenant administratives, notamment pour obtenir des papiers, titres de séjour, etc., ça se fait en ligne. C'est très difficile d'avoir quelqu'un de visu.
Exactement. Il y a une dématérialisation des procédures administratives concernant les titres de séjour qui est portée par l'ANEF, l'Administration numérique des étrangers en France. Donc, petit à petit, des catégories de titres de séjour sont dématérialisées et ça implique que les personnes puissent faire les démarches en ligne. On en accompagne un certain nombre, mais toutes les personnes ne s'adressent pas à nous et c'est une difficulté qui va au-delà de nos publics. Donc il y a cette question-là qui est en plus adossée à des exigences. Donc je parlais de la dématérialisation, mais il y a aussi un côté exigence de plus en plus forte en direction des personnes étrangères en leur demandant d'accéder à certains niveaux de maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit, pour pouvoir obtenir des titres de séjour pérennes.
Ou la nationalité française aussi.
Ou la nationalité française, et c'est un très bon exemple, puisqu'on a un glissement, c'est-à-dire que il y a un cadre de référence européen qui permet d'évaluer le niveau de connaissance d'une langue. Et le niveau de connaissance de la langue qui était exigé jusqu'à maintenant pour accéder à la nationalité française va être désormais exigé avec la dernière loi relative à l'immigration. Ce niveau de français va être exigé pour les personnes qui veulent accéder à un titre de séjour de 10 ans. Donc on voit bien qu'il y a un glissement et la difficulté...
Ça n'a peut-être pas été assez dit d'ailleurs, tout ce qu'il
vraiment.
Y avait dans cette loi. Hein.
Voilà, c'est le genre de petit sachet qu'on fait passer dans une grosse valise législative. En termes d'intégration, vous avez donc des personnes qui ont leurs attaches familiales ici, qui travaillent ici, qui ont vocation à vivre ici, et qui sont maintenues avec des titres de séjour relativement courts parce qu'elles ne peuvent pas accéder à un titre de séjour d'une durée longue pour des difficultés de maîtrise du français à l'oral ou à l'écrit. Souvent à l'écrit, puisque les personnes sont là quand même depuis un petit moment. Mais juste pour appuyer ces difficultés, il faut bien comprendre que quelqu'un qui a été peu scolarisé dans son pays va avoir plus de difficultés à accéder à une langue qui n'est pas sa langue maternelle à l'écrit. Donc c'est pour ça, ce sont des situations complexes. Alors il y a un problème général d'apprentissage du français. Et puis, c'est des situations qui sont aussi parfois différentes. Hein. Vous avez des personnes qui parlent très bien, mais qui vont être plus en difficulté à l'écrit. D'autres qui ont été scolarisées dans leur pays, qui vont du coup pouvoir être plus à l'aise sur l'usage de l'écrit, mais en contrepartie, à l'oral, vont être plus en difficulté.
Oui, là, on parle de ceux que vous connaissez bien, les personnes étrangères, mais en France aussi, il y a cette question d'illettrisme, quoi. Quand on a eu un apprentissage un petit peu chaotique, comme vous le disiez au départ, et on se retrouve en difficulté à l'âge adulte face à toutes ces demandes administratives, notamment. On va parler, donc là, on a posé un petit peu le cadre, on va parler ensuite de pourquoi c'est de plus en plus difficile d'apprendre le français et de rattraper ce fossé qui se creuse avec les personnes qui sont à l'aise et celles qui ne le sont pas. Juste une petite pause musicale avec Moonlight Benjamin et ce titre « Oh là-haut ».
Oh, Pulsar.
Pulsar.
Radio curieuse et citoyenne.
Nicolas Chassin, directeur du Toit du Monde, est notre invité aujourd'hui suite à une mobilisation de différentes structures sur le territoire pour alerter sur les difficultés d'apprendre le français. Alors, on parlait de en quoi c'est important aujourd'hui, voire indispensable de maîtriser le français à l'oral, mais aussi de plus en plus à l'écrit. Quelles sont aujourd'hui les difficultés pour apprendre le français sur le territoire? Vous alertez sur le fait qu'il y a de moins en moins de lieux pour apprendre, en fait. Et c'est de plus en plus difficile, en fait, de répondre à tous ces besoins.
Il y a de moins en moins de lieux et aussi de diversité de propositions d'apprentissage, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des profils de personnes différents en termes de difficultés vis-à-vis de la langue française. Et donc, ça implique d'avoir une variété de propositions de formation. Puisque, évidemment, on n'aborde pas l'apprentissage du français de la même façon avec quelqu'un qui parle français mais qui ne maîtrise pas du tout l'écrit, ou quelqu'un qui a été scolarisé en français, qui a quelques notions à l'écrit, mais qui a eu un parcours scolaire un peu chaotique et qui est en difficulté de ce fait-là. Donc voilà, il y a aussi l'offre de formation, la façon dont on peut... être souple, on va dire, et s'adapter au public. Donc ça, c'est un slogan qu'on emploie beaucoup dans le travail social d'une façon générale aujourd'hui, de pouvoir mettre donc l'usager au cœur des dispositifs et de pouvoir s'y adapter. Mais après, pour s'y adapter, il faut des moyens.
Ça, et là, il y a un problème de financement.
Alors, il y a un problème à plusieurs niveaux. Il y a un problème, en effet, de financement, de fonctionnement des financements qui, parfois, ciblent des publics très spécifiques. Et donc là, on a des dispositifs qui sont construits, en fait, en fonction de catégories administratives, on va dire, de personnes, plutôt qu'en fonction des besoins de ces personnes. Par exemple, vous avez des dispositifs qui peuvent avoir leur pertinence, hein, qui sont portés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ben, je suis un étranger arrivé depuis moins de 5 ans en France, je suis un primo-arrivant. Et puis, quand j'ai vocation à m'installer durablement en France, je signe le contrat d'intégration républicaine et ça implique que je suive un certain nombre d'heures de formation. On va avoir aussi des personnes qui sont, elles, dans un parcours d'insertion professionnelle. Et là, c'est la question, c'est les orientations par France Travail ou la mission locale d'insertion, donc la mission locale d'insertion du Poitou, qui est également signataire de ce communiqué de presse. Voilà, où donc on se retrouve avec des personnes qui sont orientées par rapport à un parcours administratif plutôt que par rapport à des besoins.
Et d'où viennent les financements, justement? C'est forcément l'État ou est-ce que les collectivités locales ont aussi cette prérogative?
Alors, il y a des financements d'État, des financements des collectivités locales, que ce soit au niveau de la région ou au niveau des municipalités aussi. Alors après, vous avez des choses qui sont portées par l'État qui ont un caractère, je dirais... obligatoire, quoi. Et vous avez d'autres dispositifs qui sont mis en place par des collectivités locales qui ont un caractère plus facultatif.
Et alors, l'autre difficulté, c'est la baisse du bénévolat que vous constatez, que certaines associations constatent en tout cas, et donc pas assez d'accompagnement.
C'est pas que dans ce domaine, mais il est clair que la période Covid, alors bon. Voilà, a sans doute joué sur cette démobilisation au niveau du bénévolat. Mais c'est un bénévolat qui est exigeant aussi, puisque évidemment, si je m'engage à accompagner des personnes dans l'apprentissage du français, ça implique que moi-même, je sois en mesure d'avoir suivi un certain nombre de formations, d'avoir acquis des méthodes qui me permettent de transmettre cette langue de façon pertinente vis-à-vis des besoins de la personne. Et c'est notamment le rôle de Coraplis aussi, une autre structure signataire de ce communiqué de presse. Alors Coraplis, la coordination régionale des acteurs de proximité de lutte contre l'illettrisme et d'accès au savoir, qui mène des actions notamment de formation des bénévoles pour renforcer, puisque vous avez un certain nombre d'associations qui ne fonctionnent qu'avec des bénévoles dans l'apprentissage du français.
Associations qui sont quand même assez nombreuses sur le territoire, mais de moins en moins nombreuses. En tout cas, il y a certaines structures phares qui ont disparu, notamment l'ALCIV, on en parlait.
Alors en effet, cette structure a disparu donc là en début d'année. C'était une structure qui jouait un rôle justement très important en termes de lutte contre l'illettrisme, puisqu'ils avaient cette spécificité d'être sur Poitiers, l'association identifiée comme étant compétente sur cette question-là, parce que c'est pas exactement la même chose de faire du français langue étrangère ou de l'alphabétisation et de l'illettrisme, c'est pas exactement les mêmes méthodes pour le coup d'apprentissage. Et sa disparition a laissé quand même, on va dire plus d'une centaine de personnes sans solution d'apprentissage. On sait que certains bénévoles de l'ALCIV vont continuer d'accompagner des personnes, notamment dans d'autres centres sociaux sur Poitiers où ils intervenaient déjà. Mais après se pose la question du renouvellement de ces bénévoles, la question de l'entrée possiblement de nouvelles personnes qui auraient des besoins en termes d'illettrisme. Et là, on a un manque d'acteurs.
Il n'y a pas de solution actuellement, quoi.
Voilà. Il y a eu un travail mené par la ville de Poitiers pour essayer d'impulser, mais c'est une difficulté qui, on résout pas ce problème comme ça, quoi. Donc il n'y a pas une démobilisation des collectivités, mais c'est vrai que parfois la complexité des dispositifs et leur superposition et la complexité des méthodes de financement aussi fait que certains petits acteurs de l'apprentissage du français peuvent se retrouver très rapidement en difficulté.
Et alors là, aujourd'hui, avec ce communiqué de presse, donc signé par Adaptive, KP, CIFSP Solidaire, Corapis, École Bissonne, Fédération des centres sociaux de la Vienne, la Mission locale d'insertion du Poitou et le Toit du Monde, quelles sont les demandes que vous avez d'urgence là aujourd'hui? Quel est le dernier message peut-être que vous avez envie de passer peut-être aux politiques qui nous écoutent?
Alors, le message, c'est de construire des réflexions pour adapter en fait nos dispositifs d'apprentissage. Je reviens à cette question de
que ce soit pas plaqué,
voilà, que ça soit adapté vraiment aux apprenants et donc pouvoir donner un peu plus de souplesse dans la façon dont on construit les dispositifs et pour permettre une variété en termes d'associations, en termes de méthodes d'apprentissage et de favoriser une proximité entre les personnes qui enseignent le français et leurs apprenants. Puisque si on est dans une posture administrative, c'est plus difficile de transmettre une langue que si nous sommes dans une relation de confiance et de partage.
Un grand merci Nicolas Chassin, donc directeur du Toit du Monde, d'être venu nous partager un peu ce coup de gueule ou ce cri d'alerte, en tout cas pour l'apprentissage du français sur notre territoire. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On retrouve tout de suite Candice Mottet-Debert, médiatrice au cinéma Le Dietrich. Et Candice a prévu de nous faire peur.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine au cinéma Le Dietrich, il y a un film qui sort qui s'appelle Le Léopard des Neiges, qui est le coup de cœur de notre programme du mois de septembre. Je vous invite fortement à être curieux, curieuse et aller voir de quoi il en retourne. C'est un drame chinois de Pema Tseden. Mais moi, j'ai décidé de vous parler plus en détail de deux grands événements cette semaine. Tout d'abord, vendredi 13. Les vendredis 13 au Dietrich, c'est synonyme de soirée film d'horreur. Alors, on en profite souvent, chaque vendredi 13 qui apparaît toute l'année, pour projeter des films soit en séance unique, soit ressortir des films d'horreur qu'on aime beaucoup. Et cette fois-ci, on vous propose un marathon. Un marathon du cinéaste Ty West. Alors peut-être que là, ça ne vous dit rien, mais peut-être que si je vous dis la saga, la trilogie avec Mia Goth, avec le film X qui était sorti en 2022, Pearl qui est également sorti en 2022 et Maxine qui est sorti cet été, peut-être que ça vous parle un peu plus. Et puis pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la saga X, Pearl et Maxine, c'est une trilogie horrifique. Ce sont des films d'horreur, on va dire, parodico-indépendants qui ne sont pas des grands slasheurs ultra-violents. Hein. Ce sont des films avec avertissement, des conseils au moins de 12 et des conseils au moins de 16, mais qui sont tout à fait regardables pour celles et ceux qui n'aiment pas le gore. Et vous allez suivre, en fait, à travers trois époques, l'actrice Mia Goth, qui interprète plusieurs personnages et qui va, en fait, créer une filiation entre deux personnages féminins de cinéma d'horreur très forte. On commence avec X, fin des années 70, avec une équipe de tournage qui investit une maison isolée du fin fond du Texas pour réaliser un film X. Vous vous en doutez, hein, si vous connaissez un peu le cinéma d'horreur, des adolescents, du sexe, et bien sûr, ça se finit toujours, toujours, très brutalement. Ensuite, Pearl, la suite, c'est son préquel. On repart plus tôt, on reparle dans les années 20. Et on va suivre Mademoiselle Pearl, enfermée dans une famille isolée, dans une ferme isolée, qui veut devenir une grande star et qui n'a aucune limite à ses ambitions. Donc on vous invite fortement aussi à découvrir Pearl, qui n'était jamais sortie au cinéma, donc il y a pour l'occasion et au cinéma. Et Maxine, qui est sortie cet été, qui est la clôture de cette trilogie. On repart dans les années 80, on suit la suite de X dans Los Angeles. Maxine Minx est devenue star de films pour adultes, souhaite devenir une grande actrice de cinéma et décroche enfin le rôle de ses rêves. Mais alors qu'un mystérieux tueur traque les starlets d'Hollywood, des indices sanglants menacent de dévoiler le sombre passé de Maxine. Alors c'est vendredi 13, donc vendredi qui arrive. Le premier film est à 18h30, le second à 20h45 et le dernier dès 23h. Pour celles et ceux qui veulent faire la soirée complète ou au moins deux films, ce sont des tarifs avantageux. Et en plus, vous pourrez vous restaurer sur place, on vous prépare des sandwichs pour l'occasion. Et puis, pour finir cette chronique, j'ai envie de vous parler d'un événement. Vous le savez, chaque année, de façon mensuelle, on a un ciné-club au cinéma Le Dietrich qui s'appelle Les Trésors de Marlène, qui est animé par Alexandre Moussa, qui est critique de cinéma et enseignant à l'Université d'Art du Spectacle, donc enseignant de cinéma à l'université. Cette année, il programme son ciné-club de l'année sous le thème de « La nuit au cinéma ». Alors la nuit au cinéma, hein, c'est synonyme du sommeil, du rêve, du spectacle, de la fête, des plaisirs charnels, de l'invisible, du fantastique, mais bien sûr aussi du crime. Il y aura donc 10 séances de ciné-débat à compter de septembre. La première séance, c'est lundi 16 septembre à 20h et c'est l'immense dernier film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, en version restaurée, avec Tom Cruise et Nicole Kidman, hein, au plus grand de leur forme. William Harford, un riche médecin à la vie de couple lisse et bien réglée, se laisse entraîner le temps d'une nuit dans un monde interlope après que son épouse Alice lui a confié avoir eu le désir de le tromper quelques mois auparavant. Alors avec le temps, Eyes Wide Shut a été reconnu comme un chef-d'œuvre aux mystères intacts et à la complexité folle. Tout dans Eyes Wide Shut reste ouvert à l'interprétation, au principe d'incertitude, y compris les rêves et les fantasmes du personnage de Kidman. Et comme nous disent nos amis des Inrock, voilà ce qui rend aujourd'hui et sans doute pour très longtemps le dernier film de Stanley Kubrick fascinant et indépassable. Attention, c'est une séance unique. Nous repassons Eyes Wide Shut lundi 16 septembre à 20h et ce sera suivi d'une ciné-conférence avec les enseignants Alexandre Moussa et Francisco Ferreira.
Merci Candice, on te retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils cinéma. Demain dans Séquence Midi, nous recevrons un chercheur qui a mis en place un test comportemental pour améliorer le dépistage de la dépendance au tabac. Et on recevra aussi un conseiller municipal délégué à la ville cyclable pour parler de l'offre de prêt de vélo gratuit pour les étudiants et étudiantes de Grand Poitiers. Et pour vos autres idées sorties, voici votre agenda. Réaliser une animation en 3D, c'est ce que vous propose l'espace Mendès France. Devenir apprenti réalisateur à partir des formes de base et des mouvements de caméra, les objets prennent vie. C'est pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans. Le plein tarif est de 15€ et c'est 3,50€ pour les détenteurs de la carte Joker. Ça dure 2 heures et c'est sur réservation auprès de l'EMF. Balade Préhisto, c'est à 15h à la Sabline, musée de la préhistoire de Lussac-les-Châteaux. Découvrez les collections du musée, notamment les pierres gravées réalisées par nos ancêtres, maîtres dans l'art de la gravure. Puis partez à la découverte des grottes préhistoriques de la Marche et des Fadets, là où les plaquettes gravées ont été découvertes par milliers. C'est pour tout public. Le plein tarif est de 5€. Visite guidée du palais, c'est à 15h au palais Place Alphonse le Petit à Poitiers. Parcourez l'histoire du palais, ancienne résidence des comtes de Poitou et ducs d'Aquitaine. Transformé en palais de justice après la Révolution française, il est aujourd'hui au cœur d'un vaste programme de réhabilitation. Une visite incontournable pour les amateurs d'histoire et d'architecture. La réservation, là aussi, est obligatoire. Et c'est 4 euros par personne, gratuit pour certaines personnes. Inscription pour la carte Joker, justement, on en parlait. C'est cet après-midi à 15h30 au Centre socioculturel de la Blaiserie. Le Joker, ça s'adresse aux habitants et habitantes de Poitiers ayant peu ou pas de revenus. Tous les membres du foyer peuvent avoir droit au dispositif, y compris les enfants à partir de 2 ans. Et avec cette carte nominative, chacun et chacune peut sortir à tarif réduit, 3,50€ de septembre à août. Entre-temps, la compagnie Isatrap, c'est à 18h30 au parc de Saint-Éloi, en face de la maison de quartier Sèvres, duo circassien perché et renversé pour tout public. Une invitation pour une promenade suspendue en équilibre. Venez prendre l'air, le nez au vent et partager avec eux une pause poétique et légère entre ciel et terre. C'est gratuit. Et puis aujourd'hui débute l'Atelier des Possibles, le premier festival Festi-Roulotte. 3 jours et 3 soirs de spectacles, expo, concerts, ateliers jam, scène ouverte. Aujourd'hui à 16h30, inauguration officielle de la Roulotte des Possibles. À 17h30, c'est l'ouverture du bar et de l'échoppe. Et 18h30, concert de Greg Beau, chanson rock, swing et débridé. Tout est en ligne pour avoir le programme. Sur Pulsar, à 18h, c'est Jazz Product. À 21h, l'Indépendance. Et à 23h, Sonokino. Merci Angélique pour la réalisation technique. On se quitte avec Alicia Fields et ce titre, I Can Give You That. Bon après-midi. À demain.
Grass grow high as the cattails. Shadow of shadows, spend the dawn. Take it all in before it's gone. It's hard to trust, to take a punch, to be ignored, misunderstood. Too many short landings. The rush, the memory sense, the perfect light, the smell of rain, and I'm here for the taking. I can give you that, I can give you that, I can give you that. Please take it. I can give you that, I can give you that, I can give you that. Pay close attention, soft and rough. I'm your redemption.